À la rentrée 1979, Tristan commença le CP et Laetitia alla à la crèche. Ce dernier point fut douloureux. La petite eut beaucoup de mal à admettre ce mode de vie. Elle pleurait presque tous les jours et appelait sa sœur. En fin d'après-midi, quand les fillettes se retrouvaient, Laetitia se calmait enfin. L'aînée lui expliquait que la séparation était inévitable et temporaire. Ce qui compte, c'est d'être ensemble le soir, le matin et les jours de congé. Tristan souffrait, même si elle le cachait afin d'épargner sa sœur. À l'école, à sa concentration de bon élève se mêlait une angoisse constante. Comment Laetitia supportait-elle cet arrachement? Elle se rappelait qu'elle-même avait apprécié la crèche. Mais cela n'avait rien à voir. Pour elle, la socialisation avait constitué un progrès par rapport au tête-à-tête gênant avec sa mère. Heureusement, les sœurs disposaient d'assez de temps l'une pour l'autre. L'aînée découvrit l'art d'expédier les devoirs et les leçons. Ainsi, elles pouvaient recréer chaque soir leur bulle édénique. Laetitia vénérait sa sœur, qui était sous son charme et inversement. « Est-ce que toutes les sœurs sont comme ça ?» demanda un jour Florent à Nora. « Non, Bobette et moi, c'était comme chien et chat. » La première fois que tante Bobette vit Tristan avec ses lunettes, elle applaudit. « Tu as l'air encore plus intelligente comme ça !» La nièce en conçut du soulagement. « À l'école, un garçon de la classe m'a traité de crapaud à lunettes. »« Il est jaloux !» affirma Tati. Quand Bobette voyait ses nièces ensemble, elle écarquillait les yeux. « Les miens se chamaillent du matin au soir. Comment tu as réussi ce coup-là » demanda-t-elle à Nora. « Je n'en ai aucune idée. J'ai peur que Tristan se consacre moins à sa fiole maintenant. » Elle se trompait. Pendant les fêtes de famille, la jeune marraine eut à cœur de faire entrer Cosette dans leur idylle. Elle inventa à cette fin une méthode habile. En l'absence de sa fiole, elle parlait d'elle comme d'un personnage prestigieux. Elle ne disait rien d'inexact, elle se contentait de présenter les choses sous un aspect mythologique. Tu imagines comme ce doit être difficile d'être la seule fille avec trois terreurs de grands frères? Eh bien Cosette les mène à la baguette. Elle est plus maligne qu'eux, elle leur raconte des trucs énormes et ils marchent. Une nuit, où ils l'empêchaient de dormir, elle les a menacés du monstre caché sous son lit. Il s'appelle Brol et il m'obéit. Si je lui commande de vous dévorer, vous allez voir. Laetitia avait beau n'être qu'un bébé, elle comprenait. Elle vouait un culte à celle qu'elle appelait « Gosette », ce qui dans le nord de la France, comme en Belgique, désigne le chausson en pomme. Cosette fondait pour sa cousine. Les trois fillettes prenaient le thé ensemble dans la dinette en plastique. « Madame Tristan, votre fille est très sage. À un an et demi, elle boit déjà dans une tasse. »«
Merci, Madame Cosette. Gosette !»
Mais sa manière de réclamer son goûter est encore impolie. Laetitia avait un vocabulaire déconcertant. Ni papa, ni maman. Ses parents auraient pu s'en vexer s'ils l'avaient remarqué. Elle disait des choses comme « Tristan, tu me manques » ou « Vivement ce soir !» Dès qu'elle croisait un individu qui portait des lunettes, elle le désignait du doigt avec indignation.
« Lunettes, Tristan »
criait-elle, estimant qu'on avait volé à sa sœur son attribut. Diplomate, Tristan enseignait à la petite le nom des adultes qui vivaient sous son toit. Ainsi, à 2 ans, les salua-t-elle d'un tonitruant
« Papa et maman !»
Ils ne s'en émurent pas outre mesure. « C'est normal, elle a l'âge. » Ils déchantèrent quand ils s'aperçurent qu'elle ne divisait pas leur identité. Si elle croisait Nora, elle lui disait « Papa et maman !» Idem pour Florent. Tristan se demanda si elle n'avait pas réduit cet ensemble à un seul élément. Dans l'espoir de les rassurer, elle leur fournit une explication. « C'est parce que vous êtes inséparables ?»« Avec un argument pareil, on pourrait appeler Tristan et Laetitia. »«
J'adorerais !»
Les hostilités en restèrent là. Tristan n'était pas la première de sa classe. Elle était la première de l'école. À 7 ans, elle écrivait et calculait mieux que les CM2. Elle refusait d'autant plus obstinément de sauter une classe qu'elle refusait de creuser l'écart entre sa sœur et elle. De plus, à ses yeux, l'intérêt de l'école était social. Elle se passionnait pour le cas de chaque enfant. Non seulement elle veillait à la bonne entente générale, mais elle accordait une attention fascinée aux cas particuliers. Au CP, il y avait un garçon obèse. Habitué aux moqueries, Soren la menaça d'emblée.
« Je casse tes lunettes !»«
Dommage. Sans elles, je ne te verrai pas. »«
Tant mieux !»«
J'adore te regarder. »«
Tu aimes les gros ?
Tu n'es pas gros, tu as l'air d'un zeppelin.
C'est quoi ?
Le ballon qu'on voit dans le ciel avec une marque de pneu dessus.
Perplexe, le gosse insista.
Je suis pas un pneu.
Non, tu es le zeppelin. Un jour, tu pourras voler. Tu m'emmèneras ?
C'était toujours elle qui allait vers les autres et jamais l'inverse. Une part d'elle en souffrait. Elle eût aimé savoir comment c'était d'être convoitée. À la réflexion, l'unique personne qu'elle n'avait pas dû séduire, c'était Tati Bobette. Elle lui téléphona.
Tati, tu m'as toujours aimée ?
Bah, dès que je t'ai vue.
Pourquoi ?
Comment ça, pourquoi ?
Les gens ne m'aiment pas automatiquement.
C'est les lunettes.
Non, c'était déjà comme ça avant. Les gens m'aiment si je vais les chercher.
C'est bien.
Oui, mais pourquoi ne me cherche pas, moi ?
Tati finit par trouver une explication.
T'es tellement intelligente, ça fait peur.
Tristan essaya de se satisfaire de cette réponse. Hélas, elle entendit à travers la cloison cet échange entre ses parents.
Dommage que Tristan ne soit pas plus jolie, dit maman.
Pourquoi penses-tu ça ? Elle est très jolie. Elle est fine, elle a un beau visage, des cheveux magnifiques. Ses lunettes lui vont bien.
Tu as raison, je me suis mal exprimée.
Quel est le problème ?
Nora mit du temps avant de formuler.
C'est une petite fille terne.
Pas du tout. Elle est brillante, séduisante.
Ouais, je sais.
Quand on la découvre, elle est extraordinaire. Mais ça ne se voit pas.
Elle a l'air d'une petite fille terne.
Tristan retint son souffle, dans l'espoir que son père proteste. Elle eut beau tendre l'oreille, elle n'entendit rien d'autre que le bruit des baisers et des caresses dont ses parents étaient prodigues avant de s'endormir. Il n'y avait que deux possibilités. Soit papa était d'accord avec le terrible verdict, soit il estimait avoir suffisamment parlé d'un sujet à ce point moins important que la célébration de leur amour. Soit les deux à la fois. Laetitia dormait profondément. Sur la pointe des pieds, Tristan alla dans la salle de bain, chaussa ses lunettes et regarda son reflet dans le miroir. Elle n'y aurait jamais songé d'elle-même et pourtant sa mère l'avait judicieusement dit. Petite fille terne. Terne. Quel adjectif affreux. Il n'existait aucune manière agréable de l'entendre. Et comme c'était juste. Elle n'avait en effet aucun éclat. La justesse de la parole maternelle la cloua sur place. Petite fille terne, c'était sans espoir. Une petite fille grosse peut mincir. Une petite fille laide peut embellir. Que peut-il arriver à la petite fille terne ? Comment son absence d'éclat pourrait-elle s'inverser ? Elle savait que son comportement n'y changerait rien puisque, comme l'avaient souligné ses parents, elle agissait depuis toujours de manière remarquable, sans que le moindre éclat ne l'en récompense. Elle essaya d'analyser la source du drame. Ce qui brille dans un visage, ce sont les yeux. Les siens luisaient normalement et les lunettes répercutaient cette lumière. Alors, Tristan recourut à la comparaison pour comprendre. À qui se mesurer sinon à sa sœur ? Aussitôt lui apparut le regard pétillant de Laetitia. Ensuite, elle compara avec son propre regard dans la glace et fut forcée de constater que cela ne pétillait pas. Pourrait-elle y remédier ? Elle s'efforça d'injecter des étincelles et des paillettes dans son regard. En vain. Ce qui empêchait ses yeux de pétiller, c'était une très profonde tristesse. Pourquoi suis-je si triste ? S'interrogea-t-elle. La réponse jaillit en son cœur. Elle avait toujours été triste parce que ses parents n'avaient jamais cessé de faire bande à part. Rien dans leur attitude n'indiquait qu'ils aient besoin d'elle, qu'elle soit l'essentiel de leur vie. Terne. Adjectif moyen à la mesure de sa tragédie. Ce n'était pas que papa et maman ne l'aiment pas, ou soient méchants, ou la battent, ou qu'elle leur soit indifférente. C'était pire. Que peut-on contre la tiédeur ? Rien. Cela ne crie pas vengeance au ciel. C'est une souffrance médiocre. Ils sont pareils avec Laetitia. Or, Laetitia n'est pas terne, ses yeux pétillent. Pourquoi ?
Là encore, la réponse ne relevait pas du mystère. La petite sœur, elle, n'avait pas passé les 5 premières années de son existence dans une espèce de néant, parce que Tristan était là, qu'il avait couvé d'amour et entouré d'attention dès sa naissance. Laetitia s'était éveillée à la vie dans les meilleures conditions grâce au regard constant d'une grande sœur fervente. Tristan éprouva de la joie à l'idée d'avoir évité à Laetitia sa traversée du désert. L'instant d'après, son chagrin la rattrapa. Elle sut que son état était irrémédiable. Rien ne pouvait corriger ce que 5 ans de tiédeur subie avaient installé en son âme. On n'avait pas allumé au fond de ses yeux le brasier d'amour des premières années. Pour elle, il serait toujours trop tard. « J'ai 8 ans, et je sais que je suis terne, et que ça ne va pas s'arranger », pensa-t-elle. Quelque chose se révolta en elle. « Maman a dit que j'avais l'air d'une petite fille terne. Eh bien, ce n'est qu'un air. Cela veut dire que je sais simuler, et c'est un atout. » Cela lui remonta un peu le moral. Mais les apparences ne plaidant pas en sa faveur, elle devrait éternellement se battre contre cette fatalité. Elle comprenait aussi que si les gens ne venaient pas spontanément vers elle, c'était à cause de son absence d'éclat. Sans doute valait-il mieux l'accepter, histoire de ne pas ajouter à sa tristesse latente l'absolu du désespoir. Elle alla se recoucher. Les mots « petite fille terne » la hantaient comme une comptine sinistre. Elle sut que ce serait sa faille, que même 20 ou 40 ans plus tard, il suffirait de ces 3 mots pour la clouer au sol. Chaque âme a sa blessure. Voici la mienne, décréta-t-elle. Il est rare de posséder à 8 ans une si rude sagesse. Désormais, à chaque rencontre, elle scrutait les yeux des gens à la recherche des étincelles qui la distingueraient. Quand un regard ne pétillait pas, elle souffrait de cette connivence discrète. Ce que ses yeux avaient perdu en feu, il le gagnerait en profondeur.